Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Oui, c'était pas, je voulais pas trop le dire, le teasing de...
Dire quoi?
Mais bon, le teasing de bilan 2023, il faut qu'on le garde encore un peu pour nous, je pense.
Pourquoi?
Parce que...
Créer de l'attente.
Ça va, c'est... Non mais c'est du teasing, t'as rien dit là pour l'instant. Ils savent qu'il y a un truc... Enfin, ils savent qu'il y aura un bilan qui arrive. Il n'y a pas eu de détails
Pour l'instant, on n'a rien fait fuiter. Il n'y a pas eu de leak encore. Donc tu vois, je continue le teasing en bande-annonce.
Même pas dans le début de cette bande-annonce, sera-t-elle incluse? Ou est-ce que tu démarreras uniquement à partir de cette phrase-là, ce qui rendra la chose encore plus folle?
C'est un truc de fou. Donc, on est en bande-annonce. On a fait une longue émission.
Yes.
Hein. On a fait une longue émission.
Ouais, bah,
ça va, Patrick? Je t'ai pas senti très très à l'aise de dire du mal comme ça.
J'avais du mal avec Flashback notamment. Ah ouais, ah ouais, ça pique. Ouais, clairement. Ouais.
Tu t'es fait un peu violence, je suis désolé.
Ah, mais il faut, hein.
Il faut. La question de la bande-annonce. La question, c'est une question que a proposé Dark Tom. Pour vous, quel est le meilleur DLC de jeux vidéo? Et on va commencer par toi, Corentin.
On en avait parlé dans Silence on Joue, parce que je l'avais... je crois qu'on était même au croissant, je crois, quand on en avait parlé. Et c'était Splatoon 2 Octo Expansion. C'est trop bien. C'est juste excellent. Donc Splatoon 2, jeu quand même fondamentalement multijoueur, même si proposant, on va dire, des campagnes solo relativement complètes et sympas. Mais voilà, c'est pas le plus important dans un jeu Splatoon, en tout cas dans le 1 et le 2. Mais alors, Octo Expansion donc, a rajouté une campagne à Splatoon 2 en plus de la campagne principale. Mais trop bien, mais vraiment, elle était excellente cette campagne.
Ouais.
Donc on incarnait un Octaling donc, qui est donc, le penchant poulpe par rapport aux calmars normaux de Splatoon, qui est coincé dans un métro sous la mer et où les niveaux sont les arrêts du métro et donc tu peux accéder aux autres arrêts de métro si tu trouves les correspondances vers les autres lignes. Et en fait, contrairement aux campagnes classiques, il y a énormément de twists sur la manière dont ils doivent être faits. Donc, par exemple, il y a des niveaux où tu vas avoir... une balle de billard qu'il faut absolument pas faire tomber sous peine d'exploser, ou alors des défis avec encre limitée, ou alors des défis où on est uniquement avec certains ultis du mode multi. Il y a plein de défis différents. En fait, ils ont vraiment réfléchi à comment rendre le jeu sympa avec des règles très avec des variations de règles et dans des niveaux qu'ils ont choisis assez courts. Généralement, c'est des niveaux très courts. Le tout enrobé dans une direction artistique. Alors moi, je suis un extrêmement client de la direction artistique de Splatoon d'habitude, mais là, qu'est-ce que c'était bien. C'est... Il y avait, ils ont, ils ont la bande son de tout ce DLC tout seul, je l'écoute pour bosser tellement je l'aime. Elle est vraiment super. Alors c'est toujours un peu des poètes et des machins façon Nickelodeon un peu, mais un peu vénère, un peu plus électro. L'artiste fictif de qui s'occupe de la BO de ce DLC Dead Fish est un peu plus hard, mais voilà, il y avait notamment des clins d'œil aussi un peu lunaires à comment ils s'appelaient ces rappeurs, je les ai plus, à Tupac et à j'ai oublié le nom de l'autre, mais c'est pas grave.
Notorious Big
et Tupac, absolument. Donc les deux personnages principaux, enfin les deux personnages idoles du jeu sont habillés comme Tupac et Notorious Big. Enfin il y a un côté un peu bizarroïde voilà là-dedans, mais c'est super. Tout est vraiment, et alors par contre est assez dur en plus, donc vraiment là pour donner un challenge en plus aux fans de Splatoon 2. C'est un jeu que c'est très dommage que ce n'ait pas été que ça soit pas compatible avec Splatoon 3. Parce que quand j'essaie de le vendre à des gens, je dis « Ah non, mais la meilleure campagne de Splatoon, c'est le DLC de Splatoon 2. » Bah, tu vas pas faire racheter Splatoon 2 aux gens qui est un dead game, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il est inclus avec le pass additionnel Nintendo, bon, qui est un autre type d'arnaque. Mais bon, voilà, il y a quand même quelques moyens de d'y jouer. Mais voilà, c'est vraiment super. Okay. C'est vraiment le DLC qui m'a marqué. C'est pour ça que j'attends avec impatience le DLC de Splatoon 3, parce que s'il est à la hauteur de celui de Splatoon 2, je vais passer un bon moment, moi, l'année prochaine, je pense.
Patrick.
Ah, déjà, peut-être pour resituer, pour moi, un bon DLC, donc contenu additionnel à télécharger pour un jeu, ça ne doit pas donner la sensation de remplir un vide manquant volontairement dans le jeu complet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, par définition, qu'on ait la sensation d'avoir du plus. Moi, celui qui me vient en tête tout de suite, c'est pas un DLC, c'est le Season Pass qui était lié à Resident Evil 7. Parce que déjà, le jeu était solide. On va pas refaire l'article sur ce qu'est Resident Evil 7 en termes d'immersion, d'ambiance, mais on va dire un jeu qui était cohérent, qui tenait, qui te tenait pendant quelques heures. T'en sortais un petit peu sur les joues en termes d'ambiance et de stress. Et alors, je trouve que Capcom avait fait très très fort avec donc les différents DLC, donc le Season Pass qui regroupait comme ça plusieurs extensions, parce que en fait ils brodent parce que c'est toujours disponible, bien sûr, ils brodent plusieurs expériences qui viennent complémenter l'histoire que tu as eue dans le jeu complet, et dans des domaines qui à la fois apportaient de la narration en plus. Je pense notamment à l'extension Fille, où on voyait de l'intérieur l'événement majeur et malheureux qui va radicalement transformer la famille des Baker. C'est-à-dire qu'on avait cette sensation d'être immergé dans les coulisses de l'arrivée du mal dans cette maison qui était normale avant. Oui, la maison était à peu près normale auparavant. Donc ça, c'était déjà fascinant sur le plan narratif. On avait une extension en mode torture movie avec vraiment un... Quand on est un petit peu sensible à ce niveau-là, on avait des...
Avec
des,
les cartes
des, avec les doigts.
Ouais. Avec le jeu de cartes,
ouais,
là, c'est ça,
ouais. C'était assez terrifiant. Et moi, celui que je préférais de tous, c'était la chambre. Une sorte d'escape game où on était enfermé dans une chambre avec la mère Baker qui venait nous voir régulièrement. Donc, il y avait des choses à cacher dans la pièce vite avant qu'elle revienne. Il y avait une tension dans ce passage. Donc, pour dire que voilà, ils avaient réussi à broder des expérimentations narratives autour d'un jeu qui reste solide en tant que tel. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait s'en passer. Par contre, quand on est fasciné par ce septième volet qui quand même brisait pas mal de conventions de la série, réinventait pas mal de choses en puisant comme ça des inspirations, la vue FPS, une autre forme d'approche de l'horreur, je trouvais vraiment qu'en termes de contenu, c'était assez impressionnant. Et encore une fois, avec des angles, des personnages aussi qui apparaissaient via les DLC. Donc, en tout cas, voilà, sur Resident Evil 7, un contenu DLC vraiment intéressant et qui amenait beaucoup de plus-value à l'expérience originelle.
Marius.
Ben moi aussi, je suis sur du survival, mais un autre genre, puisque c'est probablement Animal Crossing Happy Home Paradise. Parce que wow, j'ai jamais vu, alors c'est évidemment moins moi que mes enfants, mais j'ai jamais vu un plaisir comme ça surgir d'un DLC. Je me souviens de la tronche de mes filles qui l'attendaient, mais il y avait un décompte à la maison, quoi, avant l'arrivée du truc. Et le bonheur que ça a procuré à ces deux enfants de pouvoir découvrir un autre pan d'univers, de, plutôt que de décorer leur maison, mais de décorer pour d'autres, d'avoir de nouvelles îles, des nouvelles missions, des nouveaux machins, c'était complètement dingue. Et ça me faisait plaisir. J'ai pas touché une seconde, hein, mais ça me faisait plaisir pour elle, en fait.
Je m'attendais de ta part à un petit Blood and Wine.
C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, parce que c'est probablement.
Bien sûr.
Parce que c'est un DLC qui est probablement meilleur que le jeu originel.
Mmh. Ouais,
mais en vrai, il m'a pas procuré autant de plaisir que Happy Home Paradise et de voir la tronche de ses enfants pendant deux mois, quoi. Deux, trois mois, c'était « Ah là là, j'ai fait ça !» et machin. Et j'étais consulté, genre « Il veut un environnement un peu comme ça. Tu penses que c'est plutôt comme ça ou comme si ?» ou machin. Mmh. J'étais là, genre « J'en sais rien, moi.
» Et ben moi, pour ma part, c'est un jeu qui a connu deux DLC et... Des deux, c'est sans doute le moins bon, mais c'est celui où je me suis éclaté, où j'ai joué, où tout ça. Le bon DLC, enfin le meilleur sans doute, enfin je pense objectivement, mais c'est dur de dire objectivement, mais je pense que c'est objectivement le meilleur, c'était The Ballad of Gethony.
Là, j'ai pensé
et celui
aussi,
où que j'ai adoré parce que j'étais en plein dans ma période Sons of Anarchy. C'était The Lost and the Damned. The Lost and the Damned de GTA 4.
En termes d'ampleur, je crois que c'était les premiers DLC qui sonnaient comme des jeux à part entière. Quoi,
The Lost and the Damned, c'est une vingtaine d'heures de jeu. Enfin, c'était imposant quand même.
C'était moins des DLC. Au début, les DLC, c'était des petits contenus un peu additionnels, payants, où on se demandait si c'était pas une façon d'arnaquer les joueurs.
Jeu.
Et là, on était sur des extensions, ce qu'on appelait autrefois des extensions de jeu.
Oui, c'est vrai, une extension. Ouais. Un disque additionnel, même. C'était des disques additionnels avant.
Ah là là, mais The Lost and the Damned, mais les Motorcycle Club. Et en plus, c'était vraiment... c'était Sons of Anarchy dans GTA 4. Et quand tu regardais série et que tu étais à Donf dans cet univers de gangsters à moto avec tous leurs trucs, enfin, c'était... Il y avait tout et franchement, j'ai vraiment adoré. Et cette impression que j'ai très peu retrouvée quand même après à ce niveau-là de se dire on a un terrain de jeu de ouf avec les maps des villes, etc. Et il suffit de garder la même ville et de raconter une autre histoire, tu vois. Enfin,
c'est très malin. Ouais.
Et GTA 5, il y a eu tout le online. Ils ont fait du boulot en online, mais... J'aurais bien aimé sur GTA V avoir un truc un peu pareil avec un contenu solo narratif à donf, mais en réutilisant la map.
Les outils étaient là, clairement, le décor était là, il n'y avait plus qu'à quoi. Ouais.
Et tous les jeux Rockstar, enfin tu te dis, il y a tous les grands,
Nightmare,
les grands open world. Il y a Assassin's Creed Odyssey qui avait fait leur truc sur Atlantide qui n'était pas trop pourri aussi. Mais il y a toujours l'idée de se dire avec tout le matériel que vous avez raconté d'autres histoires, tu vois. Enfin,
Red Dead avec les zombies était très bien aussi. Undead Nightmare, c'était drôle ça.
Ça sortait trop de l'univers. Enfin, j'y avais joué.
Drôle, justement.
C'était drôle, ouais. C'est vrai.
Un twist.
Et vous, chères auditrices, chers auditeurs, pour vous, quel est le meilleur DLC de jeux vidéo? Vous pouvez répondre évidemment sur le Discord de Silence on Joue. Il y a un fil de discussion pour ça ou sur les réseaux sociaux. Et puis, nous, on se retrouve demain pour l'épisode de la semaine de Silence on Joue. Ciao.
Ciao.
Bye.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.